Chers frères et sœurs, vous avez entendu cet ange qui dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Mais peut-on croire cet ange? Peut-on croire cet ange qui dit que rien n'est impossible à Dieu? Peut-on croire le messager de Dieu qui dit que rien n'est impossible à Dieu quand on voit l'état de notre monde ou qu'on examine tout simplement notre vie quotidienne? Pour le dire avec Wilfred Monod, déjà au début du XXe siècle, Dieu peut-il vraiment faire un bâton avec un seul bout? Quand on observe notre actualité, quand on regarde rétrospectivement notre histoire, si rien n'est impossible à Dieu, soit il nous a oubliés, soit le problème n'est peut-être pas du côté de Dieu, mais du nôtre. Prise hors de son contexte, il est vrai que cette phrase de l'ange Gabriel peut effectivement faire penser que Dieu peut tout faire. Ou, si j'emploie un anthropomorphisme, si j'imagine Dieu comme un être humain, nous pourrions penser que Dieu peut faire tout ce qui lui passe par la tête. Mais ce n'est pas cela dont il est question dans ce passage biblique. Et j'aimerais reprendre ce texte pour montrer que cette phrase de l'ange est à comprendre dans un contexte, dans un cadre, dans un certain périmètre. J'aimerais que nous réalisions que ce qui n'est pas impossible à Dieu, c'est de faire en sorte que ce qui peut arriver arrive effectivement. Prenons bien conscience de cela. Manifestement, Dieu veut s'incarner dans l'histoire humaine. Dieu veut partager la vie des humains au plus proche de leur existence. Et pour cela, la naissance de Jésus est envisagé comme la rencontre absolue de la condition humaine et de l'espérance divine. Dieu veut sauver les humains d'une vie qui n'en est plus une, alors Dieu fait surgir un être pleinement humain qui vivra pleinement l'espérance de Dieu qui veut le salut de tous. Ce qui explique que cet homme s'appellera Jésus, ce qui en hébreu veut dire l'Éternel sauve. L'Éternel sauve l'humain d'une vie qui en est plus une. Et prenons bien conscience que pour que cela arrive, il faut un ventre humain. C'est ce que dit notre texte en grec. Marie va concevoir dans son ventre, dit le texte grec. Et si nous voulons être au plus proche de ce texte grec, il me semble qu'il faudrait reprendre le verbe surambano pour le traduire par quelque chose comme Marie va rassembler dans son ventre. Le texte nous dit que Marie va rassembler dans son ventre. Elle va recevoir l'ambano, plusieurs choses qu'elle va rassembler surambano. Et en rassemblant cela, elle va concevoir. Elle sera enceinte. Une enceinte contenant plusieurs choses. Vous voyez, l'évangile, c'est finalement assez simple. L'image est assez claire. C'est assez parlant. Pour dire ce qu'est la grossesse, le texte biblique ne théorise pas tout. C'est une image qui nous fait comprendre que Marie va vivre tout ce que vivent les femmes enceintes. Dieu ne choisit pas de faire venir Jésus sans un ventre qui l'accueille, et il ne choisit pas de faire venir Jésus sans plusieurs choses qui le constitueront. Parce que Dieu ne peut pas faire un enfant sans que les choses se mêlent, des corps, des paroles, des désirs, une espérance. Dieu ne peut pas faire un homme sans une humanité qui pourra le concevoir, le porter et le mettre au monde. Et voilà comment nous pouvons comprendre la limite de cette affirmation selon laquelle rien n'est impossible à Dieu. Nous pourrions la retraduire de la manière suivante. Rien de ce qui est possible à l'homme n'est impossible à Dieu. Et quand l'homme n'arrive plus à faire le béaba de l'humanité, Dieu est ce qui rend l'homme capable de l'accomplir à nouveau. Quand l'histoire de l'homme est en panne, quand l'avenir de l'homme est comme bouché, Dieu désigne ce qui relance l'histoire, ce qui ouvre à nouveau l'avenir. Mais Dieu ne crée pas à partir de rien. Dans ce texte biblique, comme dans le premier chapitre de la Genèse, Dieu ne crée pas à partir de rien. Il utilise ce qui est là, disponible. Dieu crée à partir de notre pâte humaine, même quand elle est pleine de grumeaux, même quand elle n'est pas très onctueuse. Dieu ne crée pas à partir de rien, mais à partir du tohu-bohu qui est là. Dieu crée à partir de nos situations, même lorsqu'elles sont bien chaotiques. Quand il s'agit de donner une situation ses pleines potentialités, rien n'est impossible à Dieu. Non seulement Dieu ne crée pas à partir de rien, mais sa puissance ne s'exprime pas sans le concours de l'homme, dit ce texte biblique, et plus précisément sans la foi des humains. Pensons à l'intégralité de l'histoire biblique. Pensons à l'histoire de l'alliance de Dieu avec les humains. Quand on pense aux difficultés pour que les humains vivent à la hauteur de l'espérance divine, et à tous les efforts qu'il faut déployer pour sauver l'homme de son incapacité à être simplement heureux, on mesure qu'il en aura fallu du temps pour qu'arrive Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas arrivé plus tôt? Est-ce qu'on n'en avait pas besoin plus tôt? Quand on regarde l'histoire biblique, est-ce qu'il n'aurait pas été un peu généreux de faire venir Jésus un peu plus tôt dans cette histoire? Dieu serait-il cruel d'avoir attendu aussi longtemps? Surtout si rien n'est impossible à Dieu. L'hypothèse qui me semble la plus possible est qu'il a fallu attendre quelqu'un comme Marie, animé d'une joie unique en son genre, pour que Jésus naisse. Encore fallait-il que quelqu'un acceptât de mettre au monde dans les termes de Marie. Qu'il me soit fait selon ta parole. Qui parmi nous accepterait de mettre au monde Jésus? Même sans connaître l'histoire des évangiles, mettre au monde le Fils du Très-Haut, comme si on n'avait pas déjà suffisamment de soucis comme ça. Quand Marie dit qu'il me soit fait selon ta parole, ce n'est pas une parole de soumission. C'est une parole d'acceptation pleine et entière. Marie dit oui à l'ange, parce qu'elle dit oui au projet de Dieu, parce qu'elle se sent capable. Après sa rencontre avec l'ange, elle se sent capable de dire oui. Elle a suffisamment confiance en elle pour pouvoir dire oui au projet de Dieu. Et c'est ce dialogue avec l'ange qui est intéressant. C'est ce dialogue qui permet de susciter chez Marie une foi capable de dire oui, une foi capable d'adhérer au projet divin. Et la foi de Marie est absolument nécessaire pour que tout le reste de l'histoire arrive. Il fallait ce oui de Marie pour que l'histoire de la rencontre intime de Dieu avec l'homme puisse connaître ce moment ultime. Sans le oui de Marie, rien n'était possible. Rien n'est impossible à Dieu, mais pas sans le concours de Marie, ici, dans cet épisode. Il fallait ce oui de Marie, cette adhésion totale à cette perspective, pour que Dieu puisse réellement s'incarner dans l'histoire de l'humanité. On pourrait dire que la foi, c'est comme une caisse de résonance à l'espérance divine. La foi de Marie, c'est ce qui permet à la vie selon Dieu de donner toute sa démesure, une caisse de résonance. Et la foi de Marie n'est pas simplement nécessaire dans cette histoire du salut. N'oublions pas qu'il fallait quand même aussi le oui de Joseph, dont on ne parle pas trop dans cet épisode, mais dont il est question par ailleurs. Ne l'oublions pas non plus. N'oublions pas indépendamment de la question de Jésus, indépendamment de sa naissance, qu'il fallait aussi la foi des disciples pour que la prédication de Jésus puisse trouver suffisamment d'écho pour se transmettre de proche en proche et nous atteindre finalement. Il n'a pas suffi qu'une voix s'exprime il y a 2000 ans pour que nous puissions l'entendre aujourd'hui. Il a bien fallu une chaîne de transmission. Il a bien fallu que des gens disent oui à cette parole pour ensuite la transmettre à un autre, jusqu'à nous. Il fallait la foi de celles et ceux qui croisèrent la route de Jésus et qui ont affirmé un oui retentissant à la vie que Jésus proposait. Et il faut encore notre foi aujourd'hui pour que cette espérance d'une vie marquée par le bonheur et par la grâce est encore à l'avenir. Et là, vous comprenez bien que je compte essentiellement sur vous. Nous, on a déjà un peu notre avenir en dos. Donc c'est un peu de vous dont il est question là, dans ce texte de Marie. C'est vous, la jeune fille, qui reçoit la visite de l'ange. Et c'est à vous que va être proposé un projet auquel, en toute liberté, vous serez invité à jouer. Notre foi est requise. Elle est requise pour que la vie en Dieu puisse s'épanouir largement. Notre foi, c'est-à-dire notre attachement viscéral à ce que propose l'Évangile, c'est-à-dire une vie libre, une vie profondément marquée par un amour inconditionnel. Et notre foi est nécessaire pour que l'Évangile ne reste pas lettre morte. Si Dieu est ce qui permet de métamorphoser des faibles moyens en de grands résultats, encore faut-il que ces faibles moyens soient là et qu'il y ait un oui qui autorise Dieu à opérer cette métamorphose. La foi, c'est le fait d'autoriser Dieu à faire plus grand que ce que nous voudrions. La foi, c'est le fait d'autoriser Dieu à faire plus amplement, plus généreusement que ce que nous ferions seuls. La foi, c'est le fait d'autoriser Dieu à faire l'impossible de toutes nos possibilités en son vie. Et c'est là que l'ange a toute sa place. Alors, il nous faut parler un peu de l'ange. Parce qu'il ne faudrait pas que vous repartiez en ayant encore l'idée que les anges sont des petits êtres entre ciel et terre, des petits êtres. Et des joues toutes joufflues d'un mouvement. Peu importe la forme de l'ange, mais pour ne pas trop prendre notre troupeau, l'ange, c'est chacun de nous. Lorsqu'il va faire le travail de l'ange dont nous allons parler nous. Ce que nous observons dans ce texte, c'est que la qualité de l'ange ne tient pas à son apparence, il tient à ce qu'il est capable de rendre possible, justement. Et ce qui fait cet ange ici, c'est de réveiller notre assouplissement. C'est de nous réveiller notre vie tranquille, routinière, gentiment assouplie. Dans ce passage biblique, l'ange Gabriel entre sans frapper, sans crier gare. Et il parle sans détour, pas de diplomatie, il va franco. Nous pouvons même penser que l'ange impose à Marie ce qu'elle va devoir faire, ce qu'elle va devoir vivre, du coup, endurer. Mais souvenons-nous que Marie, à la fin, exprime son consentement en toute liberté, pour réaliser que l'ange ne parle pas à l'impératif, il parle à l'indicatif. Il n'impose pas, il propose, comme le plus souvent dans la Bible. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le répète, souvenez-vous que les 10 paroles, le décalogue, n'est pas à l'impératif, mais au futur de l'impératif. Dieu n'impose pas, Dieu indique. Et le message de Dieu, Gabriel, n'oblige pas Marie à quoi que ce soit. Il lui ouvre les yeux sur une possibilité. Rien ni personne n'oblige Marie à dire oui, si ce n'est elle-même. La conscience de Marie n'est nullement violée, ni son corps d'ailleurs. Elle garde la main sur la succession des événements. Dieu propose et l'homme dispose. Rien de plus, rien de moins. Ce que fait Gabriel, c'est d'ouvrir les yeux de Marie sur ce qu'elle peut vivre. C'est un peu comme si vos parents vous disaient tout ce qu'il vous sera possible de vivre plus tard. Moyennant le fait que vous disiez oui à vos études. Et quand celle qui est fiancée à Joseph de la maison de David dit qu'elle ne connaît pas d'homme, on a un peu envie de répondre à la place du messager divin. Et Joseph, c'est pour faire jouer. L'ange est là pour ouvrir les yeux de son interlocutrice. L'ange est là aussi pour ressusciter son interlocutrice, la sortir de sa torpeur, de son assoupissement, pour la sortir de son demi-sommeil. Les anges sont ceux qui nous permettent de sortir de notre seule réalité, pour mieux apprécier le réel qui est autour de nous, et qui nous échappe si souvent, parce que nous avons du mal à voir le divin dans la vie. Nous sommes habitués à voir ce que nous connaissons. Nous sommes habitués à reconnaître ce que nous connaissons déjà, et c'est bien normal. Ce que nous ignorons, en général, on ne le repère pas. Or, Dieu est toujours du côté de l'inattendu. Et les messagers de Dieu ont donc pour fonction de nous aider à discerner la nouveauté de Dieu dans notre vie, dans un univers auquel nous sommes tellement habitués que nous n'y faisons plus beaucoup attention. Les anges sont là pour nous bousculer dans nos attitudes. Ils sont là pour déranger nos habitudes. Ils sont là pour nous sortir de nos ornières, des chemins tout tracés. Les anges sont comme des poteaux indicateurs qui disent qu'il y a aussi cette direction qui est possible. Et il se pourrait qu'elle ne soit pas moins intéressante que les autres. Les anges sont là pour nous faire prendre conscience qu'il y a des changements possibles, qui peuvent renouveler notre existence et celle de nos proches. Les anges sont ceux qui font découvrir des situations par lesquelles nous pouvons comprendre que nous sommes, nous aussi, capables d'innover, capables de faire preuve d'audace et de viser un peu plus haut que ce à quoi nous sommes habitués. Prenons l'exemple d'Élisabeth. Elle est vieille et elle est stérile. Et l'ange annonce à Marie qu'elle aussi attend un enfant. C'est l'argument a fortiori. Si Élisabeth, vieille et stérile, est capable de donner la vie, a fortiori, toi Marie, tu en es capable aussi. C'est l'argument a fortiori. Si vous avez été capable de faire cela, a fortiori, les autres le seront aussi. C'est un peu comme si Élisabeth avait ouvert la voie. Et Marie, du coup, savait que cette voie était ouverte et qu'elle pouvait emprunter elle aussi. Jésus, à sa manière, qui est le chemin, la vérité et la vie, ouvre le chemin pour que nous sachions qu'il est possible pour nous aussi de l'emprunter. C'est l'argument a fortiori. Là où nous pensons que ce que Jésus a fait n'appartient qu'à Jésus, les évangiles nous disent au contraire, Jésus a accompli ce que nous sommes nous-mêmes capables d'accomplir. Mais cela, c'est l'ange qui nous rend capables de le percevoir. Dieu, c'est ce qui nous rend capables d'accomplir ce que notre timidité nous empêche trop souvent d'accomplir. Et rien n'est impossible à Dieu quand il s'agit de rompre ce qui nous retient d'être fécond, d'être un peu audacieux, de porter du fruit dans les différents domaines de notre vie quotidienne. Dieu, c'est ce qui rend les personnages bibliques suffisamment confiants pour qu'ils y aillent, pour qu'ils se jettent dans l'aventure, pour qu'ils entreprennent, pour qu'ils fassent avancer l'histoire un peu plus. Et Dieu, c'est ce qui suscite des messagers de la vie, des messagers de la confiance, des messagers de l'audace,
pour que nous nous sentions nous-mêmes autorisés à dire oui.
Bon, vous savez, c'est assez simple finalement. Il s'agit de dire oui à la vie, mais à la vie en plein exercice.